Stereo, stereo, calango.
Stereo, calango.
Ogi plus de DJ.
Stereo, 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 calango.
Calango, rythme de DJ.
Il est 18h au studio Calango. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de ce mercredi 12 août 2020 à la présentation de Fils Adam Sirfo. Au sommaire, les fortes pluies qui s'abattent sur le Niger ces derniers jours ont occasionné l'effondrement de plusieurs habitations dans les régions du Dosso et Niamey et l'inondation des rizières, le point dans ce journal. La situation phytosanitaire de la première décade du mois d'août au Niger est caractérisée par un début d'attaque d'ennemis de culture dans plusieurs communes et départements. La Direction générale de la protection des végétaux a pris en charge le traitement des cultures infestées. À suivre dans le magazine de ce journal, une analyse du chercheur de l'ONG internationale Crisis Group sur la situation sécuritaire à l'ouest du Niger. 152 mm de pluie, c'est la hauteur de pluie tombée entre lundi et mardi à Gaya dans la région du Dosso, une quantité d'eau qui a occasionné l'effondrement de plusieurs maisons, des inondations et des dégâts matériels. Quelques victimes témoignent au micro de Fadel Allou.
Les pagnes des clients ont pris de l'eau, c'est des bassins et des lèches. L'inondation les a tous abîmés. Il a fallu 4 moteurs pour tirer l'eau de ma concession. C'est seulement aux environs de 2h du matin qu'on a pu finir. Dieu merci, nous avons la vie sauve. Mais nous avons passé la nuit ailleurs parce que notre maison est inhabitable.
La nourriture, les vêtements, bref, tout ce qu'il y a dans la maison est gâté. Mais heureusement, personne n'est mort. Il ne reste rien dans la maison.
La pluie d'hier, c'était un déluge parce que beaucoup de personnes ont subi des dégâts.
La hauteur de l'eau par endroit atteint plus d'un mètre. On a enregistré beaucoup de dégâts. 4 maisons se sont effondrées dans les alentours. Derrière notre concession, aucune maison n'a été épargnée.
Maisons effondrées également et autres importants dégâts suite aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours à Niamey. Selon Boukari Hamma, l'assistant du chef de village de la Mordé dans le 5e arrondissement de Niamey, la digue du fleuve n'a pas tenu et l'inondation a porté rizières et maisons. Boukari Hamma est au micro de Mokhtar Hamadou.
Au jour d'aujourd'hui, la situation est catastrophe parce qu'il y a des cases tombées. Et puis, il y a l'inondation. Pour les rizières, c'est déjà fini. Les rizières sont inondées. Donc maintenant, tout celui qui n'a pas préparé pour la prochaine campagne, il est très difficile que les rizières soient exploitées encore. Concernant la digue aussi, du pont jusqu'ici, sur toutes les vannes qu'ils ont fait, donnent des fuites. C'est ça qui augmente l'inondation. Nous voulons que les autorités interviennent. Ils sont venus, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Le maire est venu, et puis le gouverneur même est venu constater comment il a digue. Même maintenant, il y a des éléments qui sont là-bas, sur la digue. Puis même les villageois, il y a d'autres qui sont venus prendre des sacs vides ici, chez moi, pour aller voir comment ils vont faire.
Je vous le disais dans les titres, la situation phytosanitaire de la première décade du mois d'août au Niger se caractérise entre autres par des attaques de sauterelles sur le mil, le sorgho, le maïs, d'infestations de pucerons et punaises sur le niébé et l'arachide dans plusieurs départements du pays. C'est ce qui ressort du bulletin phytosanitaire de la Direction générale de la protection des végétaux du mois d'août. On fait le point avec Fanta Chamsou.
Des attaques de chenilles défoliatrices sur le mil, le sorgho, le maïs et la tomate ont été constatées dans la commune d'Agadez et le département des Maïné-Sorowa, Magueria et Dungas. Dans les départements de Diffa et Madarumfa, un complexe de sauterelles attaque le mil et une pression d'insectes floricoles sur le mil au stade d'épiaison est relevée dans les départements de Djundjou, Dosso, Gaya, Ilela et Malbaza, indique la Direction générale de la protection des végétaux. Dans les départements de Tchirozérine, Agué et Guida, des pucerons et punaises infectent le niébé et l'arachide et des attaques d'oiseaux granivores ont commencé dans les départements de Dogondouti, Gaya, Tibiri et Madawa. Plusieurs hectares infestés ont été traités et d'autres sont en cours de traitement, souligne la Direction générale de la protection des végétaux.
La coordinatrice humanitaire des Nations Unies au Niger, dans un communiqué de presse du 11 août 2020, condamne l'assassinat de 7 travailleurs humanitaires et de leur guide touristique à Kouré dans le département de Kolo, région de Tillabéri. Rien ne peut justifier le lâche assassinat des personnes qui, au prix de sacrifices incommensurables, ont choisi de servir les plus démunis en leur apportant une assistance dont ils ont grandement besoin pour vivre, sinon pour survivre. Loin de nous décourager, ces assassinats renforcent notre détermination à poursuivre notre mission et à rester aux côtés des populations nigériennes, a déclaré Mme Ndiaye Kardiatou-Lo. Au Niger, le chef de l'État est-il habilité à décider de la mise sous état d'urgence d'une localité? La réponse est oui. Après consultation du Conseil supérieur de la Défense nationale et du Conseil national de la sécurité, les articles 63 et 68 de la Constitution confèrent au chef de l'État la prérogative de décider de la mise sous état d'urgence d'une région. On écoute les explications de Meina Karte, le président de l'Association nigérienne des constitutionnels, liste à joindre au téléphone par Olivier Asokbavi.
Ce n'est pas le Conseil national de sécurité qui a décidé d'élargir l'état d'urgence dans le département de Kolo. On lit dans la Constitution que le Conseil national du monde de sécurité donne son avis sur les questions relatives à la sécurité de la nation, à la défense de la nation, à la politique étrangère et d'une manière générale sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. L'état d'urgence est une prérogative du président de la République. L'article 68 de la Constitution dit que le président de la République, après délibération du Conseil des ministres, proclame l'état d'urgence dans les conditions déterminées par la loi. Il y a une loi qui détermine les modalités de l'état d'urgence. Donc le président de la République, c'est sa prérogative, c'est lui qui décrète l'état d'urgence, c'est pas le Conseil national de sécurité.
Sitting ce matin des enseignants du secondaire et correcteurs des examens du baccalauréat à l'Office du baccalauréat du Niger, ils exigent le reliquat de 434 millions de francs CFA d'honoraires de correction de la session 2019, faute de quoi ils menacent de boycotter la session 2020. Écoutons Yahya Sidi Souleyman, le coordinateur de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique.
Avant-hier, nous avons tenu une assemblée générale avec les correcteurs du baccalauréat et session 2019. Et les camarades qui ont pris part, les résidents et ceux qui sont de passage, ont pris la décision historique si réellement l'intégralité des reliquats bac 2019 n'est pas payée. Les correcteurs ont pris la décision de ne pas participer ni à la surveillance, moins à la correction du baccalauréat session 2020.
Alors, qu'est-ce qu'a dit l'administration?
L'administration, à l'heure actuelle, ils ne nous ont rien dit. Lorsqu'on a fini l'AG, on les a transmis la synthèse de l'AG. Et depuis lors, ils n'ont rien dit. C'est le statut. Donc, c'est une manière de montrer que l'éducation n'est plus une priorité au Niger. Donc, le reliquat bac 2019 s'élève à 434 millions. Pour un État qui accorde du crédit à l'éducation, c'est quoi 434 millions?
Notons que l'administration de l'Office du baccalauréat du Niger n'a pas souhaité réagir à notre demande d'interview. En bref, le promoteur et directeur général de la radio privée Choukra de Zender, Souleymane Keita, est décédé hier à l'hôpital national de Zender des suites d'une maladie. Choukra est une radio partenaire du studio Kalangou depuis 2016. Elle a été créée le 15 avril 2001. Souleymane Keita fut correspondant de la BBC Service Hausa au Niger de 1990 à 2003 et président du club de football Al-Khali Nassara de Zender. Le Niger totalise à la date du 11 août 11 454 patients testés à la COVID-19 depuis l'apparition du premier cas au Niger le 19 mars dernier. Parmi ces cas testés, 1158 sont déclarés positifs, 1065 guéris, 24 en cours de traitement et 69 décès selon le communiqué officiel du ministère de la Santé publique publié hier. Sur 18 personnes testées à la COVID-19 au Niger, aucun cas positif n'a été enregistré au cours de cette même journée d'hier, précise le communiqué.
Salut frérot, comment tu vas?
Ouais man, je vais bien, Dieu merci, et toi?
Oh, ça crache, le réseau n'est pas bon.
Bah pourtant, je te reçois bien.
Ah, c'est bien, donc, et les activités?
Parler d'activités en ce moment, c'est difficile, tu sais. Mon oncle qui est de retour du voyage là, apparemment, lui, il va pas bien. Hein?
Ah oui? Comment tu as réussi à savoir?
Il tousse, il a le corps chaud, des problèmes de respiration, vraiment que des symptômes bizarres.
Mon frère, voici les conseils que je te donne. Il ne faut pas sortir de chez vous. Il ne faut pas non plus donner l'occasion aux autres de venir chez vous. Il faut surtout appeler le 15. À la minute près, une équipe sera chez vous pour prendre votre oncle en charge et diagnostiquer l'état de santé de toute la famille. Ne néglige pas. Il faut isoler votre oncle et chercher aussi les bavettes pour qu'il couvre sa bouche et son nez.
Mais pourquoi tout ce protocole?
Tu sais pas, il y a un virus qui circule partout. Hein. Personne n'est épargné. Je veux parler du coronavirus.
Subhanallah, la situation est sérieuse. Dès que je raccroche, je vais informer toute ma famille et appeler rapidement le 15.
Il ne faut pas oublier toutes les personnes qui étaient en contact avec lui.
Merci beaucoup, man.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
À présent, la partie magazine de cette édition au Niger. Ces derniers mois, on a enregistré plusieurs assauts contre des cibles près de la capitale, dont la dernière est l'attaque d'un véhicule humanitaire à Kouré, à moins de 5 km de Niamey. Selon le chercheur à l'ONG internationale la Crisis Group, la proximité de Niamey, plus que les autres capitales des pays du Loptako, de l'un des épicentres du djihadisme dans le Sahel, pourrait expliquer cette situation. Ibrahim Yahya analyse la situation sécuritaire à l'ouest du Niger au micro de Alassane Abdou.
Monsieur Ibrahim Yahya, vous êtes un membre de Crisis Group. Alors, des individus armés ont attaqué des touristes au niveau de Kouré. Explique-moi un tout petit peu ce que vous pensez de ce déplacement de l'insécurité jusqu'à la porte de Niamey.
Il faut dire qu'il n'y a pas d'antécédent d'attaque djihadiste dans cette zone de Kouré en particulier. Mais des assauts contre des cibles proches de la capitale Niamey ne sont pas nouveaux. D'ailleurs, cette année, des roquettes auraient été tirées dans une zone proche de la capitale. En juin 2019, un poste de police à l'entrée de Niamey sur la route de Walam a été attaqué. En mai 2019, on se souvient de l'attaque sur la prison de Koutoukalé, à environ 50 km de Niamey. De plus en plus, on a des alertes qui arrivent et qui mettent en garde contre des menaces d'attaque sur la capitale Niamey. Il faut dire aussi que Niamey est la capitale la plus proche de nombreux bastions djihadistes dans la région. Elle est par exemple plus proche que Bamako et Ouagadougou pour des djihadistes qui opèrent dans la zone du Loptako-Gourma, qui est l'un des épicentres plus chauds de l'insurrection djihadiste aujourd'hui. Elle est aussi la plus proche des zones djihadistes situées au nord du Mali. La menace ne vient pas que du nord. Et récemment, il y a eu quelques altercations vers l'est, vers la zone de Dogondouchi, etc. Tout ça pour dire que la menace est là et elle grandit. Si pendant tout ce temps, il n'y a pas eu d'attaque djihadiste, sans doute grâce aux efforts des autorités, en particulier les forces de défense et de sécurité qui multiplient les efforts.
Quelle analyse faites-vous aussi de l'attaque au niveau de Kouré?
L'attaque a eu lieu à un moment où la coalition militaire composée des armées nationales du Mali, Niger, Burkina, en collaboration avec l'opération française Barkhane, a intensifié les opérations antiterroristes qui ont eu pas mal de succès dans la zone, en neutralisant un grand nombre de djihadistes, principalement dans la zone des trois frontières. Mais c'est clair que l'attaque de Kouré représente un revers par rapport à ces succès qui sont engrangés. Et cela démontre toute la difficulté de mener cette guerre antiterroriste, car une attaque éclair par des loups solitaires pourrait saper le moral de tout un peuple et fournir une publicité gratuite aux djihadistes qui autrement seraient dans une position très très difficile à cause des opérations militaires.
Des propos recueillis plus tôt au téléphone par Alassane Abdou. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout de suite dans le forum de Studio Kalangou qui a pour thème « Comment faire face aux violences basées sur le genre dans le contexte du Covid-19 au Niger, cas des femmes ». Bonne réception.
Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi.
Ouais, raconte, je t'écoute.
Plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalangou.
Sois clair, Rabi, je veux comprendre.
Il suffit juste de composer le 325 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangou. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo.
Quoi? Et partout au Niger?
Et oui, en plus, l'appel sur le 325 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL.
Oh, merci infiniment.
Le 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangou au rythme du Niger.